Pour briser la glace de cette première émission, on reçoit en studio, et je suis bien content, Thomas Goddy, game designer, spécialiste en ergonomie des jeux chez Ludociel pour tous. Bonjour Thomas.
Bonjour Kevin.
On est très heureux de commencer avec ce sujet-ci parce qu'on trouvait que ça rejoignait à peu près tous les grands thèmes qu'on va explorer dans Aime la vie, c'est-à-dire la culture, la consommation, mais également la santé. Aujourd'hui, vous venez nous présenter un jeu vidéo, donc c'est assez spécial, qui a été conçu dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal. Comment ce projet-là est né?
Il y a eu l'appel à projet au versant local dans l'arrondissement de Verdun, dans tous les arrondissements. On a proposé de faire un spectacle articulé autour d'un jeu vidéo documentaire. Ça s'appelle Verdun transgénérationnel et le propos est d'établir des ponts de communication entre les différentes générations jeunes et plus âgées.
C'est une expérience donc multimédia. J'imagine que l'aspect multimédia, l'aspect jeu vidéo sert vraiment à aller attirer les jeunes. Mais à ça, vous avez marié un aspect historique de la sorte. Vous avez même été plongé dans les souvenirs des aînés, des gens qui ont vu Verdun grandir et se transformer. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu là, de cette collaboration-là qui a été faite avec les citoyens?
Alors oui, tout à fait. On a vraiment cherché à ouvrir le développement de ce projet à beaucoup de citoyens. Et en particulier, on est parti faire toutes sortes d'entrevues avec des aînés pour qu'ils puissent nous expliquer un petit peu l'évolution de l'arrondissement de Verdun aussi longtemps que leurs souvenirs les portent. Et puis, ça nous permettait d'avoir différents éclairages. Et donc, le jeu vidéo propose environ 170 enregistrements qui expliquent certains aspects de l'arrondissement et puis son évolution.
Et là, comment est-ce que ces mémoires-là nourrissent, en fait, le jeu vidéo? Comment est-ce que les jeunes qui vont utiliser avec une manette, là, vont interagir avec ces souvenirs?
Alors très concrètement, pour décrire un peu le jeu, il y a trois phases. Il y a une première phase d'action plateforme, accessible d'ailleurs. Le jeu peut être joué à un seul bouton pour des personnes qui seraient par exemple tétraplégiques. C'est multijoueur. Le principe de ces phases de plateforme est d'amener un alien en tourisme à Verdun à la rencontre d'un citoyen ou d'une citoyenne dans l'arrondissement.
Ah, c'est sympathique. Donc on prend... On incarne un extraterrestre en visite dans les quartiers de Verdun.
C'est ça, tout à fait. Et puis, sitôt un citoyen ou une citoyenne rencontré, ça déclenche un quiz, typiquement une question de culture générale, elle aussi accessible pour les personnes en situation de handicap visuel ou moteur. Et si quelqu'un répond correctement à ce quiz, ça débloque un témoignage qui est tiré au sort parmi l'ensemble qu'on a eu. Et puis donc, pendant 2 minutes, là, c'est une phase d'écoute où...
La récompense.
C'est la récompense, tout à fait.
Quand on parle d'une question de quiz d'intérêt général ou de culture générale, est-ce que c'est des questions qui portent principalement sur Montréal?
Alors, principalement sur l'arrondissement de Verdun, parce que c'est vraiment la thématique, mais il y en a quelques autres plus largement sur Montréal.
Vous avez dit, en fait, que les citoyens ont été au cœur de la co-création de ce projet-là. On a parlé des aînés. Mais également les jeunes, parce que vous avez participé à un festival où les jeunes ont été appelés à en fait venir donner leur conseils ou plutôt leur appréciation du jeu.
Oui, tout à fait. Fin de l'hiver, début du printemps, il y a le festival Montréal Joue. Et donc là, on propose, nous, des ateliers de conception de jeux vidéo avec des jeunes. Et donc, pour ce projet-là, on leur a proposé d'apporter à la fois des idées et des graphismes et des participations pour le son. C'était un peu plus dur à exploiter. Et donc, le jeu a un côté très coloré avec des participations de très jeunes, en fait. Des graphismes qui viennent d'enfants de 5 ans, quelques-uns, ils sont plus jeunes encore.
Ils ont été mis à contribution. Donc.
Tout à fait, donc ça se ressent très fortement.
On se disait avant que les micros ouvrent, mais pas nécessairement pour la programmation. Vous auriez aimé, mais c'est un domaine assez complexe, celui de la programmation, pour l'enseigner à des jeunes.
Alors, ça pourrait se faire, mais oui, c'est complexe. J'aimerais l'ouvrir davantage, ça va finir par se faire. Il faut trouver le bon moyen, mais c'est que ça prend tout de suite 5-10 fois plus de temps.
La caractéristique première de Ludociel pour tous, la raison pour laquelle on se connaît, Thomas, parce qu'on s'est souvent rencontrés dans les médias maintenant, c'est que Ludociel pour tous se donne vraiment comme mission de faire en sorte que les jeux soient ouverts et à la portée de tous. Donc, vous aviez parlé tantôt, il y a un seul bouton pour les personnes qui, par exemple, auraient des difficultés motrices, mais également, il y a une interface sonore qui permet aux personnes aveugles de jouer aux jeux vidéo.
Oui, tout à fait. Alors là-dessus, on ne veut pas faire trop de promesses. Cet aspect-là est perfectible. On a mis beaucoup de mécanismes pour améliorer l'accessibilité. On est conscient, par contre, que ça demandera plus d'efforts. Ce ne sera pas la même expérience. Donc, on espère que ce sera déjà assez bien, qu'on aura de bons retours. Et dans tous les cas, les prochains jeux seront encore mieux.
C'est tout à fait parce qu'effectivement, il y a un potentiel à exploiter là. Parce que moi-même, j'ai déjà, puis je suis sûr que c'est la même chose pour vous, Thomas, vu des vidéos sur YouTube de gamers un peu partout dans le monde, aveugles, qui jouent à Mortal Kombat ou à Mario Bros. Et par un processus de mémorisation tout à fait spectaculaire, arrivent à passer des niveaux complets.
Oui, tout à fait. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire aussi, d'inclure directement des mécanismes d'accessibilité dans nos jeux pour chacun, un maximum de nos projets en tout cas.
Puis quand on parle de mécanismes, c'est quoi? C'est par exemple des indices sonores?
Toute forme d'indice sonore. Bon, il serait perfectible hein, une fois encore, mais par exemple, on peut localiser l'emplacement où se trouvent les citoyens ou citoyennes à rencontrer lors des phases de plateforme. Lors des quiz, c'est sonorisé de façon à ce qu'on puisse entendre la question, les réponses et les commandes à effectuer. Bon, les phases d'écoute de témoignages, il n'y a pas trop de problèmes, évidemment.
Mm-hmm. Ben, je suis curieux, avant qu'on termine l'entrevue, Thomas, qu'on explore un peu plus l'idée historique maintenant, parce que ben, vous-même, vous êtes un citoyen de Verdun, donc c'est pas un hasard si vous avez choisi cet arrondissement-là. Est-ce que vous-même, vous avez appris des trucs sur vos rues, vos ruelles et vos quartiers en création de ce projet?
Alors oui, j'en ai appris énormément sur l'évolution de la population qui s'est vraiment transformée de façon très importante. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est la métamorphose du quartier lui-même. Verdun composé de l'île des Sœurs, l'île Saint-Paul en fait, et puis le côté terre ferme sur l'île de Montréal. Et en fait, c'est des territoires qui ont été agrandis artificiellement, qui étaient à l'origine sur les berges des dépotoirs, qui sont devenus des parcs, qui ont subi de grandes inondations. Donc, vraiment, il y a un côté historique pour les citoyens, mais aussi un côté évolutif pour le territoire lui-même.
L'île des Sœurs, notamment, qui a été agrandie artificiellement, ça, je ne le savais pas. Je l'ai appris en consultant votre jeu vidéo.
Merci.
C'est franchement, je pense que c'est une mine d'informations. Ça va particulièrement intéresser... C'est quoi le gentilé des gens de Verdun? Verdunois, mais certainement tous les Montréalais dans leur ensemble. Comment est-ce qu'on peut se procurer le jeu vidéo, Thomas?
Le